Il y a du football à la télévision ce soir, parallèlement au match numéro 2 de la finale de la Coupe Stanley. Les Saints de la Nouvelle-Orléans rendent visite aux Raiders de Las Vegas dans leur nouveau stade qu'on va inaugurer en l'absence de spectateurs. Retrouvons tout de suite Bruno Eppel. Bonsoir Bruno.
Salut Mario.
Avant de te parler de ce match-là, hier, là, honnêtement, on était gâtés en termes de rencontres avec des duels là, qui ont été enlevants jusqu'à la toute fin. Et avant même de commencer à commenter l'un des résultats, je voulais te demander... Quel a été ton match préféré hier? Parce qu'on s'entend que dans le choix de réponse, il y en a au moins, il y a 3-4 candidats, là, facile. Mettons 3.
Écoute, assurément, tu sais, tu peux rentrer la remontée des Cowboys, la surprise de Justin Herbert, mais pour moi, là, vraiment, le bonbon, et je pense que beaucoup de gens vont être d'accord, c'était le match d'hier soir entre les Seahawks et Cam Newton et les Patriots.
Ah ouais.
Tu te rappelles, on avait parlé, je disais, ah, là, ça va être un vrai test pour Cam Newton, ça va être un vrai test pour les Patriots. Puis la semaine précédente, c'était contre Miami. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont répondu présent à ce test-là. Je les prenais perdants parce que j'avais l'impression qu'ils ne pourraient pas rivaliser avec l'attaque aérienne de Russell Wilson parce qu'il n'était pas assez capable d'être spectaculaire ou en attaque. Écoute, hier, ils l'ont été, les Patriots, quand ça a été le temps, en fin de match, ils ont été capables de faire des gros jeux. Ils sont revenus dans ce match-là. On se présente à la ligne des buts. Les trois derniers matchs entre les Seahawks et les Patriots se sont terminés sur le dernier jeu du match. Peux-tu le croire? C'est quand tu as un affrontement Seattle-Nouvelle-Angleterre, dans les dernières années, c'est du bonbon, puis ça remonte au Super Bowl.
Ben oui, une fin célèbre avec l'interception de Malcolm Butler, alors qu'on n'avait pas donné le ballon à Marshawn Lynch. Tu as raison de le rappeler que c'est toujours de bons duels. Et là, malgré l'absence de Brady remplacé par Newton, on a droit au même genre de duel. Et je sais pas si tu seras d'accord, mais puis c'est sûr qu'il y a eu de belles années avec les Panthers en Caroline, mais Newton, bon, porte le ballon encore, n'est pas à ses premières années, là, peut-être un petit peu moins rapide qu'à ses grosses années, mais il a lancé le ballon comme peut-être il l'a jamais lancé hier. C'était assez impressionnant de le voir côté passe aussi, là.
Moi, c'est ça qui m'a presque le plus impressionné. Vraiment, il finit le match avec 397 verges, des statistiques intéressantes, complète 68% de ses passes dans le match, et ses plus belles passes, il les a réalisées à la fin du match. On a vu aussi la chimie commencer à se développer entre lui et Edelman. Puis il faut le dire, là, il finit avec 179. Ah non, une vraie belle chimie, là. Tu voyais qu'on se cherchait sur le terrain. Cam Newton cherchait Edelman. Edelman était là, livrait la marchandise. Et NUTT, là, d'une passe qui a passé entre les mains d'Edelman, puis il s'en voulait. Trois jeux, là, avant qu'on arrive à ce fameux jeu dont on va parler à la zone début. Faut pas oublier qu'il y a eu une passe de Cam Newton dans la zone début et Edelman a passé à un poil de capter le ballon et de donner la victoire carrément à son équipe et ça a arrêté le clou du spectacle. Malheureusement, ça s'est pas produit, puis on connaît le reste, mais il reste qu'au moins, ils nous ont donné vraiment un échantillon de ce que l'attaque des Patriots pourrait devenir. Puis c'est de toute beauté de voir ça. Puis encore une fois, ben, tu sais, la défense, on le sait, ça va être difficile un petit peu. Là, encore hier, contre Russell Wilson, ça n'a pas été évident. Mais en bout de ligne, on a une équipe du côté des Pats qui était capable de se battre sur la route face à Seattle, qui est probablement en ce moment dans l'Ouest, pas dans l'Ouest, mais dans la Nationale, une des meilleures équipes, Mario.
Ah, toute une équipe, mais je veux juste revenir sur le dernier jeu du match. Le seul problème, c'est que Cam Newton a porté le ballon avec succès et souvent dans la zone début hier, comme dans la semaine 1, mais je pense que tout le monde, même les astronautes dans Station Spatiale Internationale, devaient savoir que Cam Newton allait courir. Hein, à vous, tu veux dire, quand, tout le monde, tu sais, parce que ça avait tellement bien marché, on se disait, c'est sûr que Newton va courir avec le ballon, sauf que les Seahawks aussi, puis ce coup-là, ils l'ont vu venir, puis lui ont fauché les pieds avant qu'il puisse traverser la ligne des buts.
Puis en plus, tu sais, les deux touchés de Cam Newton, j'étais voir là aujourd'hui les faits saillants, pour être certain, mais ces deux jeux qui ressemblaient beaucoup à ce qu'on a tenté de faire une troisième fois, particulièrement le deuxième touché là, qu'on a fait juste avant que de se faire arrêter là, pour revenir dans le match, c'était le même jeu. La même formation, le centre arrière, le numéro 47 qui est là, qui fait un super bloc, Cam Newton rentre dans la zone début en marchant, Et là, on appelle le même jeu. Évidemment que les Seahawks, eux, quand ils sont arrivés sur le banc, là, on s'est parlé, puis on s'est demandé, puis on est allé voir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et le joueur que le centre arrière était supposé de bloquer, il n'avait pas été assez agressif. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé sur ce jeu-là? Quand ils ont vu la même formation, le gars, il a été plus qu'agressif. Il est venu faucher le centre arrière. Il a fauché Cam Newton, puis ça a été le désastre. Moi, la seule chose que je vais dire, c'est prévisible. Je suis pas surpris qu'on ait mis le ballon dans les mains de Cam Newton, mais j'aurais eu tendance à faire une feinte de faire le même jeu, puis peut-être une dérobade du corps de l'autre côté ou quelque chose de différent, parce que tu es dans la Ligue nationale de football, là. Les défenses vont s'ajuster. C'est exactement ce qu'on a vu.
Alors, le reste est de l'histoire. Défaite des Patriots. Il faut quand même donner un peu de crédit aux Seahawks, là, parce que même s'ils se font intercepter sur un ballon qui rebondit dans les mains d'un receveur de Wilson, après ça, tout droit dans les mains d'un gars des Patriots qui s'en va dans la zone de début. Alors, tu pars avec une prise contre toi, là, avec une minute et quelques secondes de jouer, puis tu vas quand même gagner ton match. Alors, il faut que tu aies un fichu de bon club, là, les Seahawks.
Oui, puis il faut que tu aies un fichu de bon corps, qui a la mémoire courte, puis que c'est pas de sa faute. Là. Et là, il se retrouve, puis c'est ce qu'il a fait. La séquence suivante, il a traversé le terrain, il est allé créer l'égalité, puis Russell Wilson finit le match avec 5 passe de toucher, une interception qui n'est pas de sa faute. Puis je veux juste ajouter, parce que là, Russell Wilson, moi, on parlait de lui comme MVP, là. Après 2 semaines, c'est encore lui, là.
C'est lui.
Écoute, il a 9 passes de toucher, il a 10 passes incomplètes en 2 matchs. Il a presque autant de passes de toucher que de passes incomplètes. Ça n'a carrément pas de bon sens, là, le genre de début de saison qu'il connaît présentement.
Bon, le match des Cowboys de Dallas, d'ailleurs, les Patriots ont choisi de ne pas y aller d'un botté-court avec 2 minutes à faire, puis ils ont quand même eu une chance de l'égaliser, comme quoi, des fois, c'est pas toujours la bonne décision. Il reste que les Cowboys tiraient de l'arrière par quoi? 20 points ou 19 points, Bruno, hier, à un moment donné?
Oh, écoute, c'était l'hécatombe. Leurs 5 premières séquences de jeu, là, c'était 4 revirements et 4 essais. T'sais, on a dégagé après 3 essais, on dégage. C'était l'hécatombe. On est en train de se faire rosser par les Falcons qui, tant qu'à moi, n'ont qu'eux-mêmes à blâmer, là, si tu veux, puis on peut en reparler. Ben, bravo aux Cowboys, mais come on, les Falcons.
Connais-tu une meilleure équipe pour gaspiller une avance comme celle-là, les Falcons qui ont perdu après avoir dominé complètement, on se souvient tous, du propriétaire des Falcons qui était descendu sur les lignes de côté alors qu'on s'apprêtait à fêter la victoire contre les Patriots au Super Bowl. Puis ça aussi, le reste appartient à l'histoire. Tu sais comment ça a fini, Bruno?
Ben, c'est un peu ça. Est-ce qu'on n'a pas en ce moment une équipe qui a, je sais pas moi, avec sous Dan Quinn, parce que c'est le même entraîneur-chef, là, puis je peux pas croire qu'il va finir la saison si ça continue comme ça, mais ils s'en sont comme jamais remis de ça. T'sais, depuis ce temps-là, ils sont vulnérables. C'est une équipe qui est faible mentalement, je trouve, moi, les Falcons d'Atlanta. Puis hier, ça a été un peu le cas. Le fameux botté-court, là, t'as jamais vu ça, là. Ils ont laissé le ballon rouler jusqu'à temps qu'ils franchissent le diverge. Ça, c'est pour l'équipe qui reçoit le ballon qu'il faut que tu laisses le ballon franchir diverge. Toi, t'es pas obligé de faire ça si t'es l'équipe qui a botté. Tu peux carrément sauter sur le ballon puis mettre fin au match. On n'a pas voulu faire ça. On avait peur de commettre une erreur.
Que les gars connaissaient pas le règlement. Les gars, donc, n'étaient pas conscients du règlement.
Ça, je peux pas. Si c'est ça.
Mais ben Bruno, ça peut pas être d'autre chose. Sinon, ben, t'es un.
C'est aussi où la crainte de commettre une erreur, de sauter sur le ballon puis de ne pas le prendre. Tu sais, un ou l'autre. Dans les deux cas, si c'est vraiment qu'on connaissait pas le règlement, il faut que le coordinateur des unités spéciales soit congédié sur le champ. Ça, c'est sûr et certain. Puis si les joueurs connaissaient le règlement puis ont eu peur de faire une erreur parce qu'ils sont rendus, qu'ils n'ont pas confiance en leurs moyens, ben il faut que tu les congédies eux, mais il faut aussi que tu dises, ben, mon entraîneur-chef, quel genre de confiance qu'il instaure là, à ces gars-là. Là. Tu sais, en bout de ligne, c'est inacceptable. C'était d'un ridicule consommé, ce qu'on a vu. Ça n'a pas de bon sens. Et ça a donné une chance aux Cowboys d'aller gagner le match. Tu as demandé, des fois, tu sais, je fais ça à la blague aujourd'hui, je disais ça, mais tu as demandé si les gars sur l'unité de botté court des Falcons n'avaient pas misé sur une victoire des Cowboys, là, pour installer le ballon de même.
mais les Falcons, là, honnêtement, ils avaient l'air contents malgré une défaite comme celle-là. Puis c'est pour ça qu'ils vont continuer de perdre. En voulant dire, ils n'avaient pas l'air assez contrariés par la défaite. Veux-tu une statistique juste avant qu'on s'en aille vers la conclusion? Depuis qu'on note ce qu'on appelle les turnovers, les changements de possession dans le football, ça remonte à 1933 depuis qu'on note cette statistique-là dans le football américain. Et c'est la première fois dans l'histoire qu'une équipe ayant marqué 39 points, n'ayant accordé aucun revirement, perdait un match. La fiche des équipes qui étaient dans une telle situation était de 440 victoires et aucune défaite depuis 1933. Mais là, tu peux cocher un en codant des défaites. Et salutations aux Falcons d'Atlanta. Un mot avant de se quitter sur le match surprenant d'une certaine façon, peut-être pas tant que ça, entre les Chiefs et les Chargers de Los Angeles. Puis l'histoire du match, ben finalement, on sera en prolongation grâce au batteur Harrison Butker, qui s'élance pas une fois, deux fois, mais trois fois pour finalement, puis il réussit tous les trois, réussir un placement de 57 verges qui permet aux Chiefs de survivre et de l'emporter ensuite.
Bon, regarde, c'était tout un match, c'est tout un retour. En fait, les Chiefs jouaient mal là, durant une grosse partie du match. Et l'histoire qu'on va retenir, c'est oui, les Chiefs s'en sortent. Bravo au batteur. On a Mahomes qui n'a pas abandonné, qui finit par avoir un autre match de 300 verges. Mais de l'autre côté, Justin Herbert, il s'est annoncé pratiquement dans l'échauffement qu'il va commencer le match. Et il finit avec 311 verges. A gardé son équipe dans le match durant tout ce match-là contre les champions du Super Bowl. Je peux pas croire, même si on a dit du côté de Lynn que quand Tyrod Taylor va être en forme, c'est lui qui va redevenir le partant, qu'on va pas avoir la laisse très courte à son égard, parce que là, t'as ton premier choix au repêchage qui vient de sortir tout un match.
Oh oui, lui, il dit, je suis prêt. Exactement. Il a annoncé qu'il était prêt pour la suite, lui. Donc, il y a un débat qui est engagé concernant l'éventuel carrière numéro un de cette équipe-là, mais ça part bien avec un nouveau stade. Parlant de nouveau stade, j'aurais aimé ça de parler d'un paquet d'autres matchs, mais concentrons-nous juste pour compléter sur Vegas ce soir. Dans leur nouveau stade, justement, est-ce que les Raiders seront en mesure de livrer une bonne lutte aux Saints de la Nouvelle-Orléans, ou tu y vas les yeux fermés avec une prédiction de victoire pour les Saints?
Non, absolument pas. Je pense que c'est fini le temps où on prenait les Raiders pour battus. Je pense qu'ils arrivent dans une autre ère. Ils sont bourrés de jeunes talents. Je pense à Ruggs en particulier, le receveur de passe. Je pense à Jacobs dans le champ arrière. Derek Carr est finalement bien entouré. Une des meilleures lignes à l'attaque de la Ligue. Puis une défense qui commence à jouer de façon de plus en plus agressive. Ceci étant, puis en plus, là, t'as les Saints qui s'amènent, oui, mais sans Michael Thomas. Mm-hmm. Tu sais, ils ont eu de la difficulté la semaine passée face aux Bucks en attaque. Et là, ils ont Michael Thomas qui rate le match. C'est un avantage pour les Raiders. Est-ce que je les prends gagnants? Non, mais je m'attends vraiment à un match très serré, plus que les gens peuvent le penser.
Eh bien, Bruno, un excellent match ce soir. Un gros merci d'avoir été là, puis on se reparle très bientôt.
Yes, sir. Salut tout le monde. Bonne soirée.